Bonjour Gilles Platret.
Bonjour Frédéric Rivière.
Vous dites que vous réfléchissez à être candidat à la présidence des Républicains. C'est un propos finalement assez typique des responsables politiques, ça. J'y réfléchis, je ne l'exclus pas, j'étudie cette hypothèse. En vérité, Gilles Platret, on pourrait penser que soit votre décision est prise et vous ne voulez pas encore l'annoncer, soit elle n'est pas prise et alors vous devriez pouvoir nous dire où en est votre réflexion, ce qui vous pousse et ce qui vous retient.
Alors, ce qui me pousse, parce que c'est ça d'abord, rien ne me retient en soi. Ce qui me pousse, c'est qu'on ait une ligne très très claire chez les Républicains. Je crains une chose, et vraiment c'est une crainte qui, hélas, a été alimentée ces dernières semaines, c'est que, à force d'être les bons élèves au Parlement, de vouloir faire des propositions, d'amender quelques projets de loi, on finisse, et de voter in fine les textes du gouvernement, on finisse par être assimilé comme la roue de secours de M. Macron et de Mme Borne.
C'est pas ce qu'on appelle une opposition constructive, ça ?
Ah non, mais il faut toujours débattre au Parlement. Mais il faut aussi savoir où on habite. Et quand on est dans l'opposition, et on a été élu pour ça, les voix des électeurs se sont portés sur nous pour cela, c'est pour faire de l'opposition. Moi, je suis favorable à ce qu'on renverse ce gouvernement. Je pense que ce gouvernement fait du mal à la France et qu'on ne peut pas systématiquement lui donner de l'air et donc le prolonger. Et ça n'est pas pour le bien de la France. Donc, sur cette ligne-là, qui est une ligne d'opposition franche, pourquoi est-ce que je la défends ? Et pourquoi est-ce que j'ai envie de la défendre dans le cadre de cette élection interne des Républicains ? C'est tout simplement parce que c'est l'avenir du parti qui est en jeu. Si nous sommes assimilés à M. Macron, nous disparaîtrons. Mais c'est bien plus grave que cela. C'est qu'en fait, si nous sommes assimilés à M. Macron, la seule alternative possible dans ce pays demain, ce sera entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc notre responsabilité nous dépasse nous-mêmes comme formation politique. C'est un vrai enjeu national. C'est ce que j'ai envie de porter.
Ça, c'est ce qui vous pousse.
Bien sûr.
Et ce qui vous retient.
Mais ce qui me retient, c'est simplement, à un moment donné, le jeu tel qu'il se construit. Les candidats sont en train de se prononcer les uns après les autres. Et on essaye de construire une majorité de projets, si vous voulez. Donc moi, je vois tout le monde. Je vais pas le cacher. Je rencontre les candidats qui se sont déjà déclarés. Peut-être d'autres, d'ailleurs, se lanceront-ils. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on féminise un petit peu ce scrutin, parce que nous sommes quand même aujourd'hui des prétendants très masculins. Virginie Calmels a visiblement quelques soucis dans la validité de sa candidature, mais je suis certain que...
Annie Genevard, qui a renoncé.
Je le regrette, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
Vous regrettez qu'il n'y ait pas de femmes parmi les candidats?
Oui, bien sûr. Enfin, écoutez, on donne l'impression d'être un parti exclusivement masculin, ce qui n'est pas le cas, en plus. Enfin, très honnêtement, ça n'a jamais été le cas. Donc, mais après, bon, voilà, c'est pas à moi de décider qui doit être candidat. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion de fond sur ce que nous devons faire. Je le redis, je n'ai pas entendu beaucoup jusqu'à présent. Il faut que ce gouvernement tombe. Et bien ça, c'est une ligne politique qui mériterait d'être défendue.
Vous êtes proche d'Éric Ciotti, notamment sur le plan des idées. Qu'est-ce que votre candidature pourrait apporter ?
Moi, je voudrais simplement que chacun s'exprime. Enfin, on est au tout début, ça vous a pas échappé, que chacun commence à apporter quelques propositions. Il y a une semaine, nous étions en Angers avec les jeunes. Très bonne rentrée politique, d'ailleurs, des jeunes républicains. Et on a commencé à voir les candidats affirmer un certain nombre de propositions. Je n'ai pas encore entendu, dans le débat qui s'annonce, de candidats, à part moi, pardonnez-moi de le dire, qui souhaitent renverser le gouvernement, c'est-à-dire voter une motion de censure. J'ai entendu, et ça me fait plaisir, des Républicains qui nous disent « Nous ne voterons pas le budget qui sera présenté le 26 septembre, je crois. Hein, le gouvernement va nous présenter sa copie. »
Et c'était le bon choix de refuser de discuter du budget à Bercy, l'avait proposé le gouvernement ?
Mais à quoi sert le Parlement ? Vous savez, enfin... Tout ça, c'est de la dilution. Monsieur Macron essaye de diluer les choses parce qu'il a plus la main au Parlement. Donc il essaye de nous faire des entretiens de Bercy alors que le budget se discute au Parlement. Il essaye de nous faire un Conseil national de la refondation qui ne sert strictement à rien. Ça aura l'utilité du grand débat post-gilet jaune d'il y a 3 ans, mais ça ne servira à rien. Donc on voit bien que l'idée, c'est de brouiller les cartes et on n'a pas à participer à ça. Il y a un débat parlementaire et les élus républicains se prononceront à ce moment-là.
Hervé Morin, le patron des centristes, a menacé publiquement de quitter l'alliance avec la droite en cas de victoire d'Éric Ciotti, donc à l'élection interne des républicains. Est-ce que ce scénario ne serait pas une forme de coup de grâce pour votre parti ?
J'ai trouvé très inélégant très inélégant de la part de M. Morin d'intervenir dans l'élection interne d'un parti auquel il est allié. Je le dis, j'ai beaucoup d'amitié pour lui, mais je trouve que c'est une faute politique.
Il dit qu'on ne peut pas imaginer un président des Républicains qui soit obsédé par les questions d'immigration et d'identité.
Eh bien écoutez, je suis désolé, ce n'est pas une prise de position pour Éric Ciotti ou pour un de ses concurrents, mais c'est encore aux Républicains de décider ce qu'ils veulent. Il y a des militants, ce sont eux qui vont voter, et ce n'est pas le parti des centristes qui doit influencer le vote. Donc je pense que c'est très inélégant et c'est surtout très inopportun.
L'Alliance des droites est en passe de peut-être remporter les élections législatives en Suède. Les résultats qui sont très serrés ne seront connus que demain. Est-ce qu'il y a pour vous des enseignements à tirer de ce scrutin en Suède?
Il y a des enseignements de politique générale à tirer. La Suède est hélas un contre-modèle absolu. Songez qu'en 30 ans, la population, la part de la population extra-européenne dans la population totale de Suède est passée de 2% à 15%. C'est essentiellement d'ailleurs une population d'origine africaine, nord-africaine. Donc on a eu en réalité un changement démographique en une génération, changement voulu et assumé par les gouvernements successifs, favorisé par un modèle d'État-providence très généreux qui a aspiré sur le territoire une grande partie de population qui a voulu en profiter. Eh bien on arrive, excusez-moi de le dire, mais à quelque chose de logique qui s'appelle la réaction du peuple. Et donc, je ne suis pas surpris de ce résultat, d'autant que la Suède n'a jamais fait montre d'une volonté farouche d'assimiler les étrangers qui étaient sur son territoire. Au contraire, par exemple, du Danemark. Le Danemark a un plan d'assimilation, et pourtant porté par une majorité social-démocrate, qui ferait hurler les bonnes âmes françaises. Donc on voit bien que quand on change contre la volonté du peuple, la composition même de la population, avec une immigration débridée, ben on a des réactions électorales et c'est ce qui est en train de se passer.
Et le parallèle avec la France est pertinent?
Alors on n'est pas au même niveau, puisque nous portons sur notre territoire environ 7% de la population d'origine étrangère, donc on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Mais pour autant, je pense que, on ne peut pas, contre la volonté des habitants, changer fondamentalement la face d'un pays. Quand je vois qu'en France, on est capable d'accueillir 500 000 étrangers par an, 479 000 sur les derniers comptages des dernières années, écoutez, c'est déraisonnable parce qu'on n'a pas la capacité d'assimiler. Et il faut revenir à cette logique. La priorité, ce n'est pas l'immigration, la priorité, c'est l'assimilation. Et donc, on doit être en capacité d'être fort pour répondre aux défis de la population sur le terrain. Je note aussi, tant pis, ça va être très politiquement incorrect, j'espère que ça ne vous posera pas de problème, que le développement de l'immigration entraîne celui de la délinquance. Et l'exemple suédois en est une illustration typique. C'est aussi d'ailleurs ce qui pousse un certain nombre de partis à être aujourd'hui en phase, et on verra sans doute demain, je crois que les résultats seront officiellement annoncés demain en Suède, qu'il y a une réaction virulente du peuple et qui se traduit dans les urnes. Mais ça n'a rien d'illogique.
Ce sont vos propos. Le gouvernement n'exclut plus désormais des coupures d'électricité, qu'elles aient lieu, y compris dans les foyers cet hiver. Est-ce que vous y voyez un risque d'explosion sociale ?
J'y vois d'abord une faute politique majeure et qui n'est pas simplement imputable à M. Macron. Bon, vous connaissez évidemment le débat entre le patron d'EDF et M. Macron, le patron d'EDF ayant dit la vérité. On nous a demandé de fermer des centrales, on ne nous a pas demandé d'embaucher du personnel qualifié pour en rouvrir d'autres. M. Macron, évidemment, est pris, parce que là, il est pris la main dans le pot de confiture. La décision de fermeture de Fessenheim, qui a été voulue par François Hollande sur une logique d'accord avec les Verts et exécutée par M. Macron au début de son quinquennat, est une faute majeure que nous allons payer très lourd cet hiver. Mais si vous voulez remonter un peu dans l'histoire, c'est la fermeture de la centrale de Plogoff, du projet de centrale de Plogoff dans le Finistère par M. Mitterrand, au nom d'une volonté d'attirer l'électorat moins important qu'aujourd'hui, mais néanmoins important, écologiste, en 1981. C'est la fermeture de Superphénix par M. Jospin au nom d'un accord avec les Verts. À chaque fois, la gauche nous sert le même plat. Au nom d'idéologie, elle commet une erreur politique. Donc oui, il y a des risques d'explosion sociale. Parce que quand vous avez des personnes qui triment, dont le pouvoir d'achat est laminé par une explosion des prix, et qui de surcroît vont se retrouver avec des coupures d'électricité, effectivement, ça risque de susciter des colères. Et encore une fois, elles seront légitimes, mais il faudra tirer les responsabilités. Je souhaite, avec d'autres, une commission d'enquête pour qu'on sache ce qui s'est passé.
Merci Gilles Platret. Bonne journée.